Ici, non.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous proposons de suivre en petits bouts, petits épisodes,
En feuilleton.
en feuilleton, le procès qui se déroule, qui est loin d'être un feuilleton, à Lyon, à la cour d'assises de Lyon, du 2 avril au 19 avril. Procès que nous suivons parce que il s'agit d'une évasion, parce que cette évasion a eu lieu en 2009 et qu'elle a, elle a entraîné à l'époque un petit peu de bruit sur la question des longues peines et ce qui était porté par les évadés et la parole publique qu'ils ont essayé d'avoir tant bien que mal après ça. Et puis parce que c'est un procès qui raconte, comme très souvent en assises, mais cette fois-ci de manière paroxystique, ce qu'est la justice, et qu'énormément de prises de parole au cours de ce procès racontent aussi, de manière assez combative, le quotidien carcéral et dénoncent ce qui se joue en France dans les prisons et principalement dans les centrales. Alors, on a choisi de faire une présentation au fil des journées, qu'on commence un petit peu avec quelques jours de retard. On va faire un premier épisode qui court du mardi 2 avril au mercredi 3 avril pour raconter un peu la mise en place de de ce procès. Et on a choisi une forme libre, c'est-à-dire de commenter en fait ce qui s'est passé en revenant, en citant ce qui s'est passé au fil des journées. Et puis d'autres épisodes suivront tous les 2 jours. Voilà. Donc, il faut commencer par poser en fait le contexte de cette évasion, au moins vite fait. Donc, c'est février 2009. Deux personnes de la centrale de Moulins-Yzeure, qui est dans l'Allier, se font la malle depuis les parloirs de cette centrale, en usant d'explosifs. Pour faire sortir, pour sortir, pour réussir à sortir du parloir. Donc, et puis après, s'ensuit un peu plus de 24 heures de cavale qui les amène vers le nord, puis qui retourne vers Paris. Voilà, donc évidemment, au fur et à mesure du procès, on découvre avec beaucoup plus de détails les différentes versions qui s'affrontent sur ce qui s'est passé lors de l'évasion, ce qui se passe au moment de la cavale. Et puis, en fait, ce qui se passe aussi pendant de nombreuses années avant pour les prisonniers qui sont enfermés. Et ça se termine donc à Fontenay-sous-Bois, donc le lendemain de l'évasion, par une balle dans une balle dans le haut du poumon pour un des évadés, Christophe Kider, qui, sur son lit d'hôpital, quelques jours plus tard, quand il pourra enfin parler à sa mère, assez surpris de ne pas avoir été complètement exécuté, en fait. Hein, parce que c'était l'objet en fait de cette balle dans le thorax qu'il a à la fin, mais on y reviendra. Dit à sa mère, il faut que tout ça serve à quelque chose. J'ai fait ça parce que je voulais la liberté, et j'ai fait ça parce que il s'agit de dénoncer ces cimetières infinis, voilà, dans lesquels on nous laisse. Sachant que Christophe à l'époque était libérable en 2038, voilà, au moment des faits. Et donc, il se savait définitivement condamné par la justice de ce pays. Et il s'est évadé avec un dénommé Omar Top El Hadj, que donc, nous, on citera sous le nom de Top. Hein, c'est plus simple et ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Et puis, ils sont dans le box avec trois autres personnes. Sylvie, qui était la compagne de Cyril au moment des faits.
Christophe.
De Christophe, autant pour moi. Cyril, c'est le frère de Christophe qui n'est pas dans cette histoire. Sylvie, donc, qui était sa compagne. Nadia, qui est une visiteuse de prison, qui venait voir quelqu'un, en fait, en ce parloir. Qui venait, voilà, voir un moulin quelqu'un. Qui est Baeb. Donc, c'est la troisième personne, Baeb, qui lui aussi est dans le box. Donc, ils se retrouvent tous les cinq dans le box après 4 ans de préventive. Voilà. Et il faut peut-être commencer, voilà. Et les uns et les autres sont défendus par des avocats différents. Il faut commencer par le dire dès le début, c'est important. Et les défenses ne sont pas forcément concordantes. Et ça aussi, c'est important de le dire au début pour comprendre un peu aussi le déroulé de ce qui se passe. On va essayer de suivre le fil à partir de mardi 2 avril, donc mardi de la semaine dernière, et de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être un mot d'abord sur l'ambiance dans le tribunal, en fait.
Eh ben, un tribunal très 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 surveillé. Ça se passe dans le vieux palais de justice de Lyon, puisqu'il y en a eu un nouveau construit depuis. Le vieux palais de justice qu'on appelle les 24 colonnes. Et donc pour rentrer, il y a deux portiques de détection. Il y a le premier, mais celui-là c'est celui qu'on passe toujours. Et puis il y a la salle d'assises qui est juste en face de l'entrée, avec déjà des escaliers assez imposants. Avec un deuxième portique donc en bas de ces marches, et puis en haut des marches, deux cagoulés qui sont tout le temps là. Ils sont là soit devant, soit sur les côtés, comme comité d'accueil. Il y en a d'autres aussi qui sont dans les couloirs qui bordent le côté de la cour d'assises. Mais voilà, et donc il faut aussi pour pouvoir rentrer dans cette salle, il faut avoir une carte des papiers d'identité, c'est ce qu'ils demandent, avec une photo, parce que sinon on se fait refouler. On a vu quelqu'un se faire refouler, deux personnes maintenant se faire refouler parce qu'ils n'avaient pas leurs papiers sur eux. À l'intérieur de la salle, il y a aussi beaucoup de flics, hein. Des flics, des bleus normaux, enfin non, oui. Et puis, il y a encore du GIGN ou du RAID qui traînent de ci, de là, au début, à la fin de chaque audience.
C'est ça les cagoulés dont tu parlais.
Ouais, c'est
Donc
le
c'est le GIGN qui est cagoulé avec armes, enfin avec
GIGN
le
et RAID, les deux.
RAID,
Il y
et le
avait
RAID,
deux
avec des
unités.
gros fusils à l'entrée, histoire de poser un peu une
Ah ouais,
ambiance
ah ouais.
et de dire à tout le monde qu'il s'agit d'individus dangereux, quoi. C'est un peu ça l'idée
Et
de la
ouais,
mise en
d'autant
scène.
plus que l'ambiance est super tendue, mais ça, c'est pareil, c'est un classique à Lyon. Parce que là, le président, bien secondé de son huissier, observe à peu près tous les mouvements qu'il y a dans la salle et organise la répartition du public comme ça. C'est-à-dire qu'évidemment, il a interdit tout contact de parole, toute prise de parole directe pendant les suspensions avec les prévenus qui sont dans le box. Impossible donc de se parler comme on le fait d'habitude. Il a interdit le fait d'amener des sandwichs ou des choses à manger, ce qui est généralement autorisé, même dans des procès dits à risque, puisque c'était possible au procès de Ferrara à Paris. Et puis, il fait attention qu'il n'y ait pas de signe, hein. Ça, c'est l'huissier qui vient tout de suite entre la salle et les prisonniers. Enfin voilà, donc les flics sont eux-mêmes très arrogants, ne craignant pas de menacer d'exclusion tout ce qui viendrait commenter ou gêner le bon déroulement du procès.
Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les avocats? Avant que pour vraiment pour le tableau un peu
Je vais
général.
juste dire quand même que donc ça c'est l'intérieur, et à l'extérieur, comment ils sont amenés les prisonniers, parce qu'on les voit arriver et partir. Ils arrivent avec un espèce d'énorme convoi, avec un fourgon blindé du type des fourgons blindés de transport de fonds, hein, comme ceux de la Brinks, avec des scéniques devant, derrière, là, avec des mecs à l'intérieur du GIGN lourdement armés, portes ouvertes, comme ils aiment bien faire, des motards devant, derrière encore, et puis au-dessus un hélicoptère pour bien arranger l'affaire. Et ça, évidemment, tous les jurés le voient, hein, le voient en arrivant et le voient en partant. Donc ça donne bien le ton, quoi. Je veux dire, des fois que tu aurais oublié qu'ils veulent bien montrer que c'est des gens dangereux, hein, d'après eux, et bah tout le temps, hein, je veux dire, donc deux fois par jour, on le rappelle de cette façon-là. On le rappelle aux jurés comme on le rappelle à la ville entière de Lyon, parce que c'est visible de partout, hein. Voilà. Alors, les avocats, c'est effectivement. Il y a Maître Ripert et Maître Boisel qui sont là pour défendre Christophe. Et on va dire heureusement, parce que Maître Ripert, surtout, est un vieil habitué des cours d'assises. C'est un avocat qu'on peut qualifier d'avocat militant, hein. C'est quelqu'un, bah, d'abord, qui fait pas son métier pour l'argent, vu que, par exemple, sur cette affaire, il touche rien du tout. Pas plus que Maître Voisin, hein, qui touche rien du tout non plus. Voilà, qui a énormément de choses à dire contre la justice, contre la police, et qui se gêne jamais pour le dire, puisqu'il a commencé le procès par des interviews à la presse en disant eh ben, mon client, a tenté de s'évader il y a quelques années, il a raté. Là, il s'est évadé, il a raté sa cavale. La prochaine fois, il s'évadera et rattrapera pas sa cavale. Parce que tout ça en disant que l'évasion pour lui, évidemment, vu la longueur de sa peine, c'est la seule perspective qu'il puisse avoir. Et les autres avocats, bah, c'est compliqué d'en dire quelque chose parce qu'ils sont quand même relativement, en tout cas pour ceux de la défense, relativement inexistants, hein.
C'est vrai qu'on
Ils
les a,
brillent
on
pas
les entend
par,
pas.
ah non, ils brillent pas par, ni par leur présence. Ils laissent tout passer comme ça, mais comme dans les procès d'assises, les pires, quoi, où la machine, elle se déroule tranquillement, sans qu'il y ait rien qui vienne la bloquer, sans qu'il y ait, comme tu as, cette espèce de trouille de l'autorité qui fait que bah, les autres en face, entre les procs, le président, les avocats des parties civiles, tout le monde, là, face à des avocats comme ça, est ravi, puisque bah, les jours passent, et puis on s'achemine tranquillement vers des verdicts super lourds et tout ça dans le sourire. Heureusement que y a Ripper et Boisdel qui sont là pour casser un peu ce truc-là et qui gueulent tant qu'ils peuvent, quoi. Et puis évidemment certains des inculpés n'hésitent aussi pas à venir casser le bon déroulement. Alors il y en a qui parlent au nom de tout, quoi, hein, on va dire, pas d'un point de vue très très individuel, et puis il y en a d'autres à l'intérieur qui parlent plus pour leur gueule, qui sont là pour tenter de sauver leur peau, et ça c'est un peu ce qu'il faut dire aussi au début, c'est qu'il n'y a pas une grosse unité dans le box, et ça c'est pour plein de raisons, parce qu'il y a eu par exemple, Top a écrit un livre juste avant le procès, livre dans le toi qu'il a écrit avec son avocat, Lombroso, ce livre est vraiment une merde, dans le sens où c'est un espèce de, je sais pas, d'aveu théâtral, de plein de trucs, alors que c'était super bien tenu pendant toute l'instruction, qu'il avait refusé de parler, refusé de comparaître, refusé de participer même aux reconstitutions et tout ça. Et là, bam, il est tombé dans le piège avec son avocat qui est avide de passages télé, de matchs vus, etc., qu'on n'a rien à foutre, qui est prêt à enfoncer tous les autres accusés, c'est juste pour se faire broyer.
Et on reviendra un peu au fur et à mesure du procès, parce que déjà là, au bout de 6 jours, on se rend compte que le rapport à ce bouquin a déjà changé, quoi. C'est-à-dire que certaines pages de ce livre ont été ajoutées au dossier d'instruction par les parties civiles, à la demande des parties civiles, en fait, de manière ou par le procureur, en fait, pour étayer la version de l'accusation. Et il se trouve qu'au fur et à mesure, ce livre devient, et au fur et à mesure du procès, qualifié de roman. Voilà, par ses co-auteurs, en fait. Mais ça, on y reviendra plus tard. Donc.
Le mardi matin, ça commence.
Alors le mardi matin, ça a commencé tout de suite vraiment fort, hein, puisque il y a eu une déjà Christophe a refusé de se lever quand il était accusé, levez-vous, machin, le traditionnel. Christophe a refusé de se lever en se disant qu'il refusait de participer au débat en raison bah, de ses conditions de détention, de son placement au quartier d'isolement de Villefranche, où il est enfermé pendant toute la durée du procès. Et Omar a fait de même,
Omar Top.
Omar, ouais, top, ouais. Il a refusé de se lever aussi. Ripper, lui, de son côté, il a demandé immédiatement une interruption de séance parce qu'il y avait une modification dans la liste des jurés. Chose que aucun autre avocat, par exemple, n'avait soulevé. Pour eux, c'est pas grave, t'as qu'on laisse passer. Ripper, non, il dit non, il n'y a pas, le président, il fait ce qu'il veut. Et machin, il y a un protocole, il y a un règlement, il y a un code. Et au moins, déjà, il est à votre avantage, donc au moins suivez-le, qu'on ait une chance, nous, la défense, d'organiser quelque chose. Bon, donc les jurés ont été tirés, hein, sans qu'il y ait d'accord sur les révocations entre les différents accusés, ça aussi c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et puis ensuite, donc, il y a eu l'énoncé des parties civiles. Et là aussi, Ripper a immédiatement enfoncé le clou sur le fait qu'il y a 30 parties civiles. C'est un truc, c'est délirant.
Voilà, on dit un mot des parties civiles. Donc les parties civiles qui constituent l'essentiel de la salle, en fait, qui remplissent la travée centrale,
ouais.
hein, systématiquement, et qui sont constitués en grande majorité de surveillants de la pénitentiaire. Voilà, des matons qui s'estiment victimes lors de cette évasion.
Et donc tu leur as posé, il leur a posé la question, là, c'est quoi toutes ces parties civiles? Et la plupart sont complètement fondées, puisque c'est des gens qui parfois même n'étaient pas là, c'est-à-dire la femme d'un surveillant de gars qui était à Moulins peut se porter partie civile juste parce qu'elle s'est inquiétée que son mari rentre pas et que la soupe avait refroidi, quoi. C'est à peu près de ce niveau-là. Et donc Ripper leur a demandé de quoi ils sont victimes, de quoi tous ces gens se plaignent. En rappelant évidemment que le seul sang qui avait coulé, eh ben, c'est celui de Christophe. Hein. Faut pas oublier que dans toute cette évasion, et là c'est vraiment, faut le dire dès le début, toute cette évasion où il y a eu explosion des portes à Moulins, prise d'otage de deux matons qui ont été emmenés donc pendant plusieurs heures dans la bagnole dans laquelle ils sont partis. Après il y a eu des prises d'otages, c'est leur mot, mais c'est pas grave. Prise d'otage de particuliers avec leur bagnole pour pouvoir continuer la cavale. Ensuite il y a eu l'arrestation avec des flics, tout ça avec des armes machin, et il n'y a pas eu un seul blessé, c'est-à-dire le seul de la part des évadés, pas, il y a même rien. Le seul sang qui a coulé, encore une fois, c'est celui de Christophe, il n'y a pas eu d'autre. Et ils nous font donc tout un radam là sur la violence, machin,
Et puis sur les tentatives d'homicide. Donc ça, c'est aussi tout un truc qu'on développera plus tard, mais ils sont obsédés par ça, ils sont obsédés par les tentatives, et comment on peut qualifier les tentatives dans tous les sens.
Et là une citation de Ripper au début, là, qui dit donc, la différence entre l'auto et la constitution de partie civile, c'est que pour le premier, il faut miser 2 euros et qu'on n'est pas sûr de gagner, alors qu'ici, les parties civiles gagnent à tous les coups. Les policiers et les surveillants sont systématiquement partie civile, même s'ils n'ont été ni touchés, ni même visés. Il y en a marre de ces automatismes qui sont facilités par la cour d'assises. De quoi ces gens se plaignent-ils? Le seul sang qui a coulé, c'est celui de Christophe. Je conteste la grande majorité d'entre elles, donc partie civile, et j'aimerais bien qu'ils disent en quoi ils sont victimes. Ça, c'est quelque chose qu'il va faire tout le long du procès. C'est-à-dire que systématiquement, quand un partie civile sera appelé à la barre pour donner son témoignage, à chaque fois... l'avocat de Christophe Kitter, donc Maître Ripper, leur demandera en fait en quoi dans cette histoire il s'estime victime et lésé. Et il fera pareil aussi avec les flics qui ont arrêté en fait la cavale, hein, qui ont tiré à la fin. Et là on atteint même des summums de mensonges et de malhonnêteté de la part des dites victimes.
Et l'avocat Winter, célèbrement connu dans chaque fois qu'il y a un procès de maton, où il y a des matons, c'est vraiment le monsieur UFAP, l'avocat.
Donc l'UFAP, c'est le syndicat majoritaire
Ouais, des chez les matons, un syndicat connu pour sa proximité avec l'extrême droite. Et là, Ripper leur a redit direct, hein, il leur a dit, nous sommes habitués à ces constitutions, arguant d'un préjudice à l'intérêt collectif. Nous sommes habitués à cette pratique de ce syndicat d'extrême droite. Je rappelle que Christophe Kidder, lui, n'est pas dans une prison, mais dans la prison d'une prison, enfermé pour une peine éliminatrice, 23 heures sur 24, tous les jours, sans aucune perspective. Alors comment ne pas comprendre ce besoin viscéral, fondamental, de chercher à s'évader? Christophe cherchait la liberté, il voulait s'évader et non pas tuer. Ce qui n'est pas le cas de l'administration pénitentiaire et de la police. Voilà. Donc ça, une fois, donc le ton était donné assez rapidement. Et c'est important parce que du coup, les jurés, ça resitue un petit peu le débat. On sort d'un... Sinon on reste... C'est tellement facile de rester dans le fait divers et dans juste le tout ce qui est de l'ordre factuel que voilà, on pourrait très bien imaginer le même procès. Sans que soit jamais évoqué ces questions-là, de la longueur des peines, de pourquoi il y a encore, heureusement, quelques personnes qui cherchent à s'évader et qui ne veulent pas se laisser tuer en prison, quoi, qui refusent la peine de mort.
Et l'avocat de l'UFAP répond à ce moment-là, il fait mine d'être choqué, il fait le faux naïf, Il dit « J'espérais que les débats auraient une certaine tenue, j'attends de l'intelligence et de la sérénité. » Et là, réponse de Ripper, quelle sérénité? Il y a une guerre en prison, elle est tenue secrète. Où est la sérénité avec un soi-disant suicide tous les 3 jours derrière les murs? Delphine Boiselle, donc qui le seconde dans sa défense, ajoute « C'est marrant, on ne trouve jamais l'UFAP dans ces cas-là quand il s'agit de dénoncer les conditions de détention. De toute manière, encore une fois, l'irrecevabilité a été confirmée par toutes les juridictions. » Voilà.
Voilà, et là, du coup, le président Bréjoux, je crois, hein, Bréjoux, je ne sais jamais exactement, c'est pas grave, dit que bah, qu'il reçoit les conclusions, parce que Repair a déposé des conclusions, et qu'il répondra une fois qu'il aura fini de parler des faits pendant le procès sur ces questions d'irrecevabilité. Donc ça veut dire qu'il y répondra juste avant le début des plaidoiries des parties civiles. Voilà. Ensuite, il a donné le programme des 2 premières semaines. Et puis ça a été la pause.
Donc l'après-midi, donc le jour du mardi 2.
Alors, le président a donné la lecture du résumé de l'acte d'accusation. Avant, on se tapait, il y avait la lecture de l'ensemble, de l'intégralité de l'acte d'accusation. Là, depuis quelques 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, il y a eu une refonte de ça, ce qui fait que maintenant, on n'a plus que des résumés. Alors, ça a des avantages et des désavantages. Ça permet aussi une interprétation, hein, directement, puisque c'est un résumé. Et il a rappelé en même temps les inculpations. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est pas très intéressant de donner toutes les inculpations, si ce n'est que y a, donc pour, y a celle de l'évasion, de la séquestration, du vol aggravé de voiture, des choses comme ça, pour Christophe et Omar, et pour Christophe seulement. Tentative d'homicide volontaire sur agent de l'administration pénitentiaire dans l'exercice de leur fonction et violence aggravée contre le policier, alors que c'est le policier qui lui a tiré dessus. Alors, au début, les flics ils voulaient qu'il y ait aussi tentative d'homicide contre eux. Finalement, la chambre d'accusation n'a pas permis que cette inculpation reste et l'a transformée donc simplement en violence aggravée contre le policier.
Mais la tentative d'homicide volontaire
contre les matons,
sur les matons,
2 fois,
voilà,
sur 2 matons. Ouais.
Sur 2 matons, elle reste,
elle reste.
et elle a eu lieu, elle aurait eu lieu
Ouais.
au moment de la sortie du parloir.
Et là, on a l'impression, comme ça, on peut le dire d'ores et déjà, on a l'impression, mais c'est qu'une impression, qu'on s'achemine vers une requalification à l'intérieur du procès. Parce qu'on va le voir tellement c'est ridicule, hein, puisque ça fait plusieurs fois qu'on entend le président dire. Soi-disant, enfin, etc., que lui-même il met un bémol si elle a eu lieu à cette tentative. Hein. Parce qu'elle est tellement grosse, de toute façon, qu'à mon avis, il va falloir faire autrement que la faire sauter tellement c'est ridicule.
Pour les 3 autres qu'ont inculpé.
Et bien, pour Sylvie, donc les 2 filles, Sylvie et Nadia, et Baeb, et Eugène Baeb, il y a association de malfaiteurs, complicité d'évasion en bande organisée, et complicité pour tout le reste de séquestration d'otages. Et aussi de tentatives d'homicide volontaire. Ce qui veut dire qu'eux, ils ne l'auront pas, bien sûr. Mais il y a dans le code, ils encourent la même peine que Christophe, c'est-à-dire une peine à perpétuité. Hein, parce que dès qu'il y a tentative d'homicide sur personne, machin, dépositaire d'autorité publique, ça, on encourt perpétuité.
Ils sont accusés en fait de ce qui s'est passé avant, ce qui
Ouais.
se serait passé avant de l'organisation de cette évasion. Et
Ouais.
c'est ça l'association de malfaiteurs, donc qui est quand même une loi, qui est quand même. On peut dire un mot de l'association de malfaiteurs. C'est quand même une manière d'alourdir en fait les peines. Et bon, voilà, on pourra en reparler un petit peu plus loin. Ils sont accusés aussi, donc voilà, d'être responsables de l'évasion aussi, et de tout ce qui découlerait de l'évasion, même si eux-mêmes n'ont en aucun cas participé, ça c'est évident, puisqu'ils sont restés, ces 3 personnes-là étaient dans le parloir au moment où l'évasion a eu lieu, et eux, ils sont restés dans le parloir. Donc, tout ce qui s'est passé après, de toute façon, on ne les regarde pas. Mais comme ils sont complices, dit la procédure d'instruction, de la préparation de l'évasion et de l'évasion, ils sont aussi responsables de tout ce qui découlera de cette évasion.
Exactement.
Donc, ils sont complices des homicides,
Des
etc. Des tentatives d'homicide et compagnie.
Et donc ensuite, bah alors, là c'est important quand même, Ripper a justement réagi immédiatement à la lecture de ce résumé d'acte d'accusation, parce que dedans, à l'intérieur de cette lecture, le président disait que le lieutenant, c'est un maton, hein, le lieutenant Schwertz a déclaré, c'est un de ceux qui dit que Christophe lui a tiré dessus, qu'il avait essuyé 2 tirs et qu'il avait été touché. Et ça, c'est une allégation complètement fausse et mensongère parce qu'il n'a jamais été touché par une balle et ne l'a même pas déclaré. Et donc, du coup, mais ça, c'est une façon de dire immédiatement, au début du procès, au juré, que Kider a bien une inculpation de tentative d'homicide et qu'il n'y avait pas pour rien. Bon, donc, Ripper a demandé d'acter le fait qu'il y a eu un mensonge dans cette lecture. C'est important parce que, du coup, paf, à chaque fois aussi, ça marque les jurés, ça. Et le président n'a pas pu faire autrement que de l'acter.
Parce que faire acter, ça veut dire juste faire rentrer. Parce qu'il faut savoir juste que dans ces procès d'assises, les greffiers notent pas systématiquement tout ce qui est dit.
Il note même
En fait,
quasiment rien.
ils notent très très peu de choses. Ils notent des histoires très administratives, c'est-à-dire qui sont les personnes, etc. Hein, qui parlent, à quel moment, à quelle heure, etc. Et de temps en temps, quand quelqu'un, que ce soit de l'accusation, de la défense ou du président lui-même, décide de faire acter quelque chose, c'est-à-dire qu'il va faire rajouter quelque chose, une phrase qui est dite, qui est prononcée à ce moment-là dans l'enceinte du tribunal et qui va être rajoutée. À ce moment-là, au dossier. Et maintenant, cette phrase va faire partie du dossier.
Et ensuite, donc, le juge, le président, demande à chacun des accusés de se positionner par rapport aux inculpations qui leur ont été notifiées. Alors, donc, c'est le premier moment où chacun va dire quelle est sa part, ce qu'il reconnaît, ce qu'il ne reconnaît pas. Christophe, lui, il dit évidemment, il dit je reconnais tout, il prend tout sur lui. Et il confirme ce qu'il a déjà dit au juge d'instruction. Il dit qu'il a soudoyé un maton pour 15 000 euros, qu'il avait conçu. Ça, c'est pas pour que le maton lui fasse rentrer le matériel nécessaire, à savoir des pains d'explosifs, des détonateurs et un pistolet Glock. Voilà. Avec un chargeur. Il dit qu'il a conçu le projet tout seul. Que Top n'a été prévenu qu'une demi-heure avant et que Madame Picciotti n'a rien rentré du tout.
Madame Picciotti, c'est Sylvie,
Ouais.
sa compagne à l'époque.
Et ensuite, il dit une fois dehors, je devais récupérer un sac d'armes. À part ça, tout est de l'improvisation. Il précise quand même, pour l'inculpation de tentative d'homicide, que pour ce qui est du tir sur Schwerz, il n'y avait, quand il a tiré, il voyait qu'un bout de bras qui était derrière une porte blindée, hein, comme ça le surveillant tirait même à l'aveugle, sans voir sur quoi il tirait, et que donc Christophe a tiré sur une porte blindée. Donc il dit, oui d'accord, si j'ai commis une tentative d'homicide, c'est une tentative d'homicide sur une porte blindée. Donc voilà. Ça, il reconnaît évidemment donc pas. Omar, Top, lui dit qu'il a rien reconnu, ce qui est vrai jusque-là, et le président lui rappelle quand même qu'il a écrit un livre et qu'il va le verser au débat. Et ça, c'est un problème pour Top, parce qu'effectivement, là, du coup, c'est beaucoup d'éléments qui apparaissent là, dont il va falloir qu'il se justifie. Sylvie, elle, donc la compagne de Christophe, elle aussi, elle dit, je reconnais la plupart des faits qui me sont reprochés. Je voulais vivre avec Christophe. Vous ne savez pas ce qu'est la vie d'une femme de prisonnier. C'était trop dur pour lui, pour moi, pour la petite. La petite, c'est l'enfant qu'ils ont ensemble. Nadia, elle, qui a une plaque métallique dans le dos et qui était donc suspectée d'avoir rentré, puisqu'elle sonne au portique de détection à l'entrée du parloir. Et elle a un certificat médical qui lui permet de passer et de sonner. Donc, mais normalement, quand même, elle sonne, mais les matons doivent regarder si elle a rien quand même. Voilà, là, ils n'ont rien regardé du tout, comme à l'habitude, visiblement. On ne va pas s'en plaindre, mis à part ça. Et Nadia dit, je reconnais les faits, mais je ne savais pas ce que je faisais rentrer. Pour moi, c'était du shit et un téléphone. Eugène, c'est-à-dire Baeb, ne m'a jamais parlé d'évasion.
Qui est son compagnon à l'époque
son compagnon à
et qui est
l'époque.
codétenu, qui est prisonnier lui aussi en fait à la centrale de Moulins à ce moment-là.
Exactement. Sylvie, et elle précise que Sylvie ne l'a jamais menacée. Elle dit ça parce que dans d'autres déclarations antérieures, elle avait parlé immédiatement des menaces qu'elle avait subies de la part de Sylvie. Elle tenait à rétablir la vérité. Et Eugène Baeb, alors lui, désolé de le dire, mais ce qu'il dit, c'est relativement incompréhensible. De ce point de vue-là, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que lui se dégage de toute responsabilité. Il est au courant de rien du tout. ni ce qui est pour, ni de ce qu'a fait sa compagne, ni de ce qu'a fait, ni de ce qui s'est passé, ni comment les choses sont rentrées, il est au courant de rien du tout, il est complètement innocent. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour la première journée du mardi.
Pour la deuxième journée, on va être, donc la journée du mercredi 3 avril, on va être un peu plus court.
Très laconique.
C'est beaucoup plus laconique, parce qu'en fait c'est une journée où il s'est passé, d'une certaine manière, moins de choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de prise de parole des prisonniers, des accusés, et comme c'est quand même ça ce qui nous intéresse principalement aussi dans cette histoire-là, et qu'on veut pas, il ne s'agit pas de donner la parole infiniment, et de citer infiniment flics, matons et juges, si ce n'est pour pointer leurs mensonges, voilà, on est un peu plus rapide sur cette journée-là.
Et donc, bah oui, parce que Ripper avait prévenu la veille qu'il allait être absent toute la journée parce qu'il avait, il devait plaider à Marseille. Il avait demandé le report du procès à Marseille, mais bon, voilà. Donc, non, mais c'est rigolo parce que du coup, il a dit je propose qu'on fasse sauter la journée, qu'il n'y ait pas la journée de demain, il n'y ait pas de procès ici à Lyon. Et le président lui a dit ah bah non, quand même, c'est pas possible, etc. Vous comprenez bien, machin. Alors que là, on vient d'apprendre aujourd'hui que, comme à son tour, le président lui était empêché. Lundi prochain matin, et ben là par contre le procès n'aura pas lieu. On ne sait pas pourquoi il est pas là, mais en tout cas là du coup il n'y a pas de procès. Mais bon, et alors donc Christophe aurait dû refuser de comparaître à ce jour-là, en disant mon avocat n'est pas là, donc je ne viens pas. Mais l'avocat de Sylvie, Lebras, je crois qu'il s'appelle, avait décidé, a décidé ce jour-là de demander de poser une demande de mise en liberté pour Sylvie. Avant le procès, pendant le procès, et...
En gros, que Sylvie, qui a fait 4 ans de préventive,
ouais,
puisse comparaître éventuellement, à partir d'une certaine date au moment du procès, libre. C'est-à-dire qu'elle sorte, voilà, sachant qu'elle n'est pas en forme, parce que c'est ça aussi, c'est dit, elle a fait 4 ans de préventive, elle n'est pas en forme physiquement, il faudrait qu'elle puisse comparaître libre, à partir de le plus tôt possible dans le cadre de ce procès.
Alors Christophe, toujours, parce que pour lui, une des choses très importantes, c'est que Sylvie soit libérée, bien évidemment, et ben, il décide de comparaître pour ne pas faire d'obstruction. Alors la journée, elle est occupée par la déposition des deux flics enquêteurs, des deux responsables, le premier pour toute la partie évasion le matin, et le second pour toute la partie cavale l'après-midi. C'est pas très intéressant, et pas beaucoup d'éléments à noter, sauf le fait que Winter, donc l'avocat de l'UFAP, là, a tenu à montrer que la nature et la dangerosité des explosifs utilisés montraient bien l'appartenance de Christophe au grand banditisme. Hein, donc ça voulait dire un réseau, enfin, des connaissances, toujours les mêmes conneries.
Et c'est toujours cet enjeu au début des procès, c'est-à-dire dans les premiers jours, d'essayer de poser un maximum de choses de la part de l'accusation, en fait, pour coller au portrait qui est fait des accusés, quoi. C'est-à-dire que là, il s'agit évidemment d'inscrire Christophe dans le grand banditisme, dans ses réseaux, et d'expliquer comme ça sa dangerosité, et donc de justifier par avance tous les chefs d'inculpation dont il est accusé, et de sa culpabilité forcée de tout ça.
Et donc à la fin, ils étudient la demande de mise en liberté de Sylvie, et les avocats de la partie civile, eux, se la font grand seigneur en disant que malgré la dangerosité, malgré la gravité des faits, ils ne s'opposent pas à une mise en liberté de Sylvie. Mais en fait, c'est super facile pour eux parce qu'ils savaient très très bien que le gang bicéphale, ils sont deux là au ministère public, les deux avocats généraux, un homme et une femme,
les procureurs, quoi.
Ouais, les deux procs, ouais. Et ben eux, en revanche, ils ont requis un refus net, précis de toute cette demande, disant que un, elle était toujours dangereuse, deux, il y avait des risques de pression, trois, certes, conditions de représentation n'étaient pas bonnes, enfin bon, il y avait rien, c'était absolument pas possible, quoi. Voilà.
Et ça a permis de faire un chantage pour que Christophe soit là et que la journée soit pas sautée. Et dans le rapport de force, ça a beaucoup changé. Et ça a changé quelque chose.
Ça a changé énormément de choses. Parce que du coup, ça permet effectivement au procès de prendre une certaine direction ce jour-là. C'est sûr que du coup, ce suspense-là, d'une part, le fait que Christophe, donc, du coup, accepte de participer pour Sylvie, ce mélange des deux choses, ont fait que le procès a pris une direction qui était moins un procès de rupture, même si beaucoup de choses vont se dire, hein, mais quand même, il y a... Et alors que, bon, c'était un... Voilà, c'est comme ça, il faut le comprendre, de toute façon, c'est pas nous, on n'est pas dans le box, on ne sait pas, on peut rien dire. Mais bon, c'est sûr, d'un point de vue stratégique, c'était évident, pour moi, c'était par exemple évident qu'il dirait non. C'était, il n'y avait aucune chance. Et en plus, il a été malin, le président, parce qu'il a remis la décision au lundi. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on était mercredi. Donc, il y avait encore... Ça faisait passer le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il fallait se tenir bien jusqu'au lundi, parce que la décision, il pouvait encore décider jusqu'au bout, quoi. Donc, ça... Voilà. Mais...
Et ça a servi au passage, l'avocat du parti civil, de l'UFAP, là, Winter, là, le dénommé Winter, de se faire passer, là, de faire passer l'accusation et les partis civils et les matons pour des êtres absolument compréhensifs à ce moment-là. Quoi.
Voilà, ouais. Humain, genre, voilà. Ça. Voilà, ça c'est donc pour la fin de ces deux. C'est ainsi que c'est terminé le mercredi, donc la fin des deux premières journées.